I'm a fan of Denmark, too. But, you know, the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Depuis quand le Groenland est-il convoité? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec le spécialiste de la géopolitique des régions polaires, Mikko Blujon-Mered. Aujourd'hui, deuxième épisode, l'arrivée des Inuits au Groenland. Au début du XIIIe siècle, venant du Canada par le nord, un groupe d'Inuits, membres de ce qu'on appelle parfois la culture de Thulé, s'installe au sud du Groenland. Le nom de Thulé a été donné par les Danois pour désigner ce peuple en allusion à l'île semi-légendaire de Thulé mentionnée par Pythéas, explorateur grec de l'Antiquité. Ce sont les Inuits qui introduisent au Groenland l'usage des traîneaux à chiens et du harpon à bascule pour la chasse à la baleine. Durant la période froide, ils habitent dans des maisons de terre ou de pierre. Du bois flotté ou des os de baleine sont utilisés pour la charpente. L'igloo, la maison de glace, apparaîtra plus tard. Pendant la saison chaude, ils vivent dans des tentes de peau. À leur arrivée au sud du Groenland, les Inuits rencontrent sans doute les Vikings, les descendants d'Éric le Rouge, arrivés deux siècles plus tôt. Sédentaires, eux, les Vikings pratiquent l'agriculture et l'élevage et se nourrissent de viande, tandis que les Inuits, encore nomades, vivent essentiellement de la pêche et de la chasse. On ignore en quels termes les deux communautés ont vécu côte à côte. En tout cas, contrairement, on l'a vu, aux Vikings, les Inuits vont se maintenir au Groenland, lorsque deux siècles plus tard, l'explorateur anglais John Davis atteindra le Groenland, il ne trouvera que des Inuits.
Depuis 4 heures du matin, la terre est à portée de main. Et au fond du fjord, on aperçoit quelques maisons de bois, une barque s'en détache, chargée d'ambassadeurs esquimaux et surtout d'un pilote. Ce matin de mai, où des nuages voilaient le soleil, j'ai retrouvé avec plaisir la navigation dans des eaux inconnues. Ici, ni bouée, ni balise. Ici, le temps et les glaces sont maîtres, comme dit le vieux proverbe estimé.
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Au XVIe siècle, c'est la recherche d'une voie maritime reliant l'Atlantique au Pacifique, le passage dit du Nord-Ouest, qui amène les puissances européennes à s'intéresser au Groenland. Même le Portugal, oui. En 1500, dans la lutte opiniâtre qui l'oppose à l'Espagne, le roi Manuel du Portugal envoie le navigateur Gaspar Corte Real dans l'Atlantique Nord chercher le fameux passage vers l'Asie qui, selon le traité de Tordesillas, fait partie de la sphère d'influence portugaise. Le roi s'engage à faire donation à l'explorateur, je cite, « de toutes îles ou terres fermes qu'il pourra découvrir ». Gaspar Corte Real part de Lisbonne au début de l'été 1500. Vers septembre ou octobre, il atteint une terre septentrionale où règne un climat très froid qu'il nomme « Terra Verde », terre verte, donc le Groenland, mais, manque de chance, le navigateur ne peut y débarquer en raison du mauvais temps. Voilà donc comment, à cause d'une mauvaise tempête et d'un froid glacial, le Groenland n'est pas devenu une colonie portugaise. Il s'en est fallu de peu. Mais quand Gaspar Corte Real rentre à Lisbonne, les informations cartographiques qu'il rapporte sont intégrées au fameux planisphère de Cantino qui représente toutes les découvertes espagnoles et portugaises. Pour la première fois, le Groenland apparaît sur une carte. Au début du XVIIe siècle, le roi du Danemark et de Norvège, les deux royaumes alors sont unis, envoie plusieurs expéditions afin de localiser la colonie viking dont on est depuis longtemps sans nouvelles et surtout pour réaffirmer la souveraineté sur le Groenland symbolisée par la présence d'un ours polaire sur le blason royal. Mais encore une fois, toutes ces expéditions échouent, stoppées net par les conditions climatiques et les glaces de l'Arctique. À la fin du XVIIe siècle, les Inuits sont donc toujours maîtres au Groenland. Mais ça ne va pas durer. Mikko Blujon-Mered, pourquoi les Inuits sont-ils venus s'installer au sud du Groenland au XIIIe siècle ?
Parce que les Inuits sont une économie, ou en tout cas une culture, qui est très basée sur les mammifères marins. Et effectivement, donc ils naissent aux alentours des années 900, 1000 après Jésus-Christ en Alaska. Et en moins de 300 ans, ils font tout l'Arctique américain, ils arrivent au Groenland, ils commencent à descendre effectivement vers le sud, tout simplement pour pouvoir avoir une économie de plus en plus de subsistance, mais fonctionnelle. Et c'est justement ce qui va leur permettre... Alors d'une part, c'est là qu'ils vont rencontrer les Inuits, les Vikings, puisqu'on a quand même quelques occurrences, et notamment dans les sagas, de rencontres qui se sont mal passées.
Ça s'est mal passé.
Et puis surtout, ensuite, ce qui a été très intéressant, c'est de voir comment les Vikings, les Norrois, n'ont pas survécu, versus comment les Inuits, eux, ont pu survivre. C'est-à-dire que côté Norrois, côté Viking, on a une adaptation au Groenland qui est donc partielle, mais qui est tardive et qui est surtout dépendante de ce qu'on va appeler le bon été. C'est-à-dire que, comme vous l'avez bien rappelé, quand les conditions climatiques ne sont pas favorables, tout simplement, on ne peut pas avoir le commerce, l'échange sur lequel est basée leur économie. Donc une forte dépendance extérieure sur le statut social, sur les outils, sur les navires, sur le fer, etc., fait que l'économie a été vulnérable. Côté Inuit, c'est pas du tout la même chose, parce que cette culture, elle vient du froid, elle est pensée pour le froid, elle est organisée autour du froid. La chasse aux phoques, c'est la ressource pivot absolu. On a une exploitation de la graisse également, de ces mammifères marins. Donc, on a un stockage énergétique qui est possible. On a une mobilité qui est saisonnière aussi, puisque les Inuits vont se déplacer en fonction des conditions climatiques. Et de fait, on va voir aussi toute une technologie qui va émerger, qui est beaucoup plus adaptée à cette instabilité-là. Les kayaks, les bateaux d'une personne, les umiaks, les bateaux cargo ou bateaux à plusieurs, les harpons, les chiens de traîneau, les lampes à huile.
C'est le nomadisme aussi.
Tout ça, ça vient du froid et un nomadisme en fait qui est basé sur tout simplement se déplacer en fonction des conditions climatiques pour essayer de pouvoir être en autonomie complète, ne pas être dépendant en fait d'échanges avec l'extérieur. Et puis, il y a un autre élément aussi, c'est une organisation sociale qui est particulièrement flexible, alors que, par exemple, chez les Vikings, le poids du statut a aussi pesé énormément.
Et chez les Inuits ?
Chez les Inuits, les groupes se recomposent en fait en fonction des saisons. Les statuts se recomposent là aussi en fonction à la fois des saisons et de ce que les uns et les autres dans les communautés apportent à la dite communauté. Donc, si vous voulez, il y a un effet de groupe qui est beaucoup plus important et ça leur permet aux Inuits de pouvoir absorber les chocs climatiques, les chocs de pêche pas très fructueuse ou des chocs tout simplement aussi en termes de rencontres avec des animaux qui malheureusement sont des prédateurs pour les humains Inuits de l'époque. Donc tout ça fait que la culture Inuit est beaucoup plus adaptée au froid parce qu'elle vient du froid.
Est-ce qu'ils ont des chefs ?
Alors les chefs peuvent être tournants, c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est pour ça que je parlais de flexibilité sociale, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir par exemple quelqu'un qui va se révéler sur une saison ou deux, et puis ensuite qui va être mis un peu plus de côté et qui va laisser la place à quelqu'un d'autre de plus performant par rapport aux conditions du moment. Donc c'est véritablement ça qui aujourd'hui encore transparaît dans la culture inuite du Groenland des années 2000, c'est-à-dire que fondamentalement cette question de la flexibilité du groupe, du collectif, elle est absolument fondamentale. Y compris dans la manière dont actuellement le gouvernement et les partis politiques fonctionnent.
Vous parliez à l'instant de la rencontre avec les Vikings. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a des informations dans textes anciens, sagas ?
Il faut lire les sagas, et effectivement, il faut lire les sagas. Ce qui est important là-dessus, c'est bien de comprendre qu'on a deux peuples qui ne vivent pas de la même manière, qui n'ont pas la même approche, qui pensaient et l'un et l'autre être seuls. Sur leur terre. Et de fait...
Ils ont du mal à cohabiter.
C'était difficile. La coexistence a été difficile. Elle n'a pas été impossible partout et tout le temps. Mais encore une fois, ce sont des périodes qui sont finalement assez mal documentées.
Ils n'ont pas fait des enfants ensemble ?
Il paraît qu'il y aurait des... Non. En réalité, les deux communautés sont restées assez distinctes et avec très très peu d'échanges, bien sûr.
Et qu'est-ce que vous appelez des Inuits par rapport à ce qu'on appelait des Esquimaux ? C'est quoi la différence ?
Alors déjà, il y a une différence sémantique. Esquimaux, en fait, est un terme qui est un terme colonial d'Amérique du Nord. Le terme Inuit est un terme qui vient des langues, justement, Inuit elles-mêmes. Donc là, c'est une différence sémantique qui est importante. Le terme Inuit, tout simplement, signifie humain, si vous voulez. Donc c'est assez simple. La situation, en fait, aujourd'hui, elle est là aussi assez simple, c'est-à-dire qu'on va retrouver une communauté de culture, une communauté politique, une communauté sociale qui est issue de ces temps anciens, donc il y a quasiment 1000 ans, ou même un peu plus de 1000 ans pour ce qui est de l'Alaska, depuis l'Alaska ou le détroit de Bering jusqu'au Groenland. Et de fait, cette culture, elle est fondée, comme vous l'avez très bien raconté, sur la survie, et une survie, encore une fois, en groupe, face aux éléments.
Et Inuk, ça veut dire quoi ?
Inuk, c'est un. Et Inuit, c'est plusieurs. L'Inuit, Inuit, en fait, ne s'écrit jamais avec un S, puisque Inuit est le pluriel de Inuk.
Ah, d'accord, merci beaucoup, Mikko Blujon-Meret. Dans le prochain épisode, nous parlerons des débuts de la colonisation danoise en 1721.